120 000, c'est environ le nombre d'étudiants recensés aujourd'hui en Bretagne. Ils sont inscrits à l'université, dans des classes préparatoires aux grandes écoles, dans le public ou le privé, en Ille-et-Vilaine ou dans les Côtes-d'Armor. Une importance démographique qui donne à certaines villes bretonnes, Rennes et Brest en tête, le statut officieux de villes étudiantes qui vivent au rythme du calendrier universitaire. Mais la Bretagne, bonne élève des résultats du baccalauréat, n'a pas toujours été cette région du savoir et de la connaissance. L'implantation d'établissements, la création de filières et leur organisation sur le territoire ne se sont pas faites en un jour. Aujourd'hui, dans cette émission, retour sur 70 ans de construction et de mutation de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne, des enjeux politiques, des enjeux économiques, des particularités locales, la construction de ponts entre les pôles ou la fusion impossible de facultés entre elles, et derrière tout ça, des hommes et des femmes, surtout des hommes d'ailleurs. Bienvenue dans Chercheurs en Ville. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Canal B. Notre invité du jour est André L'Espagnol. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire d'histoire moderne à Rennes 2, université que vous avez présidée entre 91 et 96. Vous avez aussi été le vice-président de la région Bretagne en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2004 à 2010, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Autant de casquettes avec lesquelles vous pourrez répondre aux questions de Xavier de Bontride.
Bienvenue d'avoir plusieurs casquettes.
Bonjour Xavier.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Et meilleurs vœux à vous.
Merci à vous aussi et à tous nos auditeurs.
Ainsi qu'à Christian Lebar. Bonjour Christian.
Bonjour Ronan, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous aussi pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne. Xavier, c'est à vous.
Eh bien oui, on va discuter, vous avez introduit le sujet à l'instant Ronan, on va discuter d'université en Bretagne et d'enseignement supérieur et de recherche. Cherche, devrais-je dire, pour être tout à fait précis, à partir d'un ouvrage collectif dont vous avez coordonné la réalisation, André L'Espagnol, un ouvrage qui s'intitule « Les mutations de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne de 45 à 2015 », 70 ans d'histoire qui sont, j'allais dire, presque décortiqués, vécus de l'intérieur. Vous êtes allé chercher les auteurs les plus concernés directement par ces
les
différentes facettes
les
et les acteurs, les auteurs qui sont des acteurs. Première question, on est dans un ouvrage universitaire, d'ailleurs, publié oui. aux presses universitaires de Rennes, mais qui a quand même une résonance avec une actualité très directe.
Je pense parce que beaucoup de ceux qui le liront pourront se sentir concernés parce qu'ils en ont vécu en quelque sorte divers épisodes. Et donc, même si c'est un ouvrage qui se veut de recherche universitaire, je pense qu'il peut parler à un public assez large de tous ceux qui sont passés à un degré ou à un autre sur les bancs de l'université, d'un IUT, d'une grande école, dans la dernière période, le grand demi-siècle qui nous a précédés.
Alors, vous avez intitulé votre ouvrage de ce titre des mutations avec un S, hein, des mutations. Oui. Plurielles. Quelles sont-elles, ces mutations ?
Alors, peut-être d'abord un mot quand même sur la genèse du projet.
Si c'est vrai.
Vous me permettez,
parce que ça permet de se comprendre que d'abord, c'est un projet, comme souvent à l'université, un projet à temps long.
À temps long, absolument. Je dirais que l'idée lointaine, je l'ai eue quand j'étais à la région où je m'occupais d'enseignement supérieur et de recherche. Et j'ai eu le sentiment, en tant qu'historien en plus, que alors que dans la mutation qu'a connue la Bretagne depuis la guerre, beaucoup de ces chapitres majeurs ont été étudiés par nos collègues universitaire, le modèle agricole breton, le modèle industriel, la révolution éducative dans le scolaire ont été déjà largement défrichés en tant qu'objet d'étude. Il me semblait que paradoxalement, la construction d'un système d'enseignement supérieur dans cette dernière période avait été laissée un peu en jachère, même s'il y avait des travaux partiels sur tel ou tel aspect du sujet.
Donc, Il fallait combler ce manque.
Oui, et en plus, j'ai assisté en 2011, je venais de terminer mon mandat à la région, à un colloque co-organisé par la Maison des Sciences de l'Homme de Bretagne et la Maison Ange Guépin de Nantes, un colloque à Nantes, donc qui s'intitulait Université et territoire, qui avait une dimension d'ailleurs européenne, n'était pas purement ni bretonno-breton, ni franco-français, et qui posait cette question quand même des formes de développement de l'enseignement supérieur et des problèmes qu'il connaît aujourd'hui pour se structurer.
Et c'est là que vous avez rencontré notre ami
bien
Christian
sûr,
Lebar.
Suite à ce colloque, j'en avais discuté d'ailleurs avec Marcel André qui était alors au rectorat, l'homme qui suivait ces dossiers, et on a eu un peu l'idée de faire quelque chose sur la Bretagne. J'avais du temps disponible, je connaissais beaucoup d'acteurs. acteur, beaucoup de chercheurs éventuellement concernés, mais j'en ai parlé en premier lieu à Christian Lebar, directeur de la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, pour savoir si le projet lui paraissait intéressant pour qu'il soit chapeauté et soutenu par l'institution qui coordonne la recherche de tous ceux qui travaillent en sciences sociales en Bretagne. C'est comme ça que l'idée a été lancée en 2011 à travers une démarche qui ne pouvait être que de long terme. En gros, le projet a pris 5 ans.
Le projet a pris 5 ans. Christian Lebart, on vient de l'entendre. Lorsqu'André L'Espagnol vous fait part de ce projet, j'imagine que la réponse de votre côté est plutôt immédiatement positive.
Oui, bien sûr, parce que, comme l'a dit André, il y avait une vraie lacune. Très paradoxalement, les chercheurs, les universitaires s'intéressent assez peu à leurs propres pratiques. Et puis, la MSH était toujours le lieu par excellence où peut se dégager, comme ça, cette réflexivité sur qui sommes-nous et quel bilan pouvons-nous faire de notre activité sur plusieurs décennies, avec quand même une épaisseur historique là qui est vraiment bienvenue. Et puis, la MSH a essayé aussi d'accompagner ce projet, peut-être André L'Espagnol, on pourra dire un mot, autour d'entretiens qui ont été filmés, donc qui constituent aussi un corpus, je crois, assez précieux d'archives.
Absolument. Sur la démarche elle-même, on la voulait par nature pluridisciplinaire, dans tout le champ des sciences sociales est concerné. Vous regardez la liste des auteurs.
Alors je viens de compter, il y en a 28,
oui,
si j'ai bien compté.
Absolument, parce qu'il y a des communications à plusieurs. Il y a des historiens, bien sûr, du temps présent, plutôt. Il y a des géographes spécialistes de géographie sociale. Il y a des politistes, il y a des économistes.
On croise les regards dans cet ouvrage.
Il y a des gens qui ont eu un rôle d'acteur dans des structures, par exemple, au CNET, pour parler d'un ou deux collègues. Donc, pluridisciplinaire, je crois que c'était très important. Et en termes de méthode, il y avait bien sûr du travail d'archives à faire. Classiquement, pour un historien, ça va de soi, du document papier qu'il fallait aller chercher, y compris chercher dans des archives privées. C'est comme ça que j'ai réussi à mettre la main sur les mémoires d'un personnage clé de notre histoire, qui est le recteur Lemoyle, recteur de 1960 à 70, et dont la famille conservait des mémoires non publiées et inachevées, mais passionnantes comme source. Et puis, l'idée que nous étions dans l'histoire du temps présent, et donc une des sources, c'est la mémoire vive des acteurs toujours vivants.
Et donc là, un travail d'enquête presque orale. Journalistique, de rencontre, d'interview.
Orale. Alors, et donc, cette enquête a été conduite pendant toute cette période, avec d'ailleurs le soutien aussi de la région Bretagne pour le financement du projet, en même temps que le soutien évidemment logistique de la MSH. Et donc, au total, pratiquement une centaine d'entretiens ont été réalisés dans cette période, entretiens d'acteurs. Alors, on se situe, c'est une histoire un peu par en haut, hein, d'acteurs qui ont été des acteurs décideurs dans ce processus. Alors, acteurs de différents types, bien sûr des acteurs académiques, à commencer par les recteurs d'académie que j'ai pu avoir, le plus ancien étant le recteur Durand Prinborn, qui a été recteur en 70-73, jusqu'au recteur du début des années 2000, des présidents d'université, des directeurs d'IUT, des directeurs d'école, ou des anciens directeurs d'IUT ou d'école, des directeurs de laboratoire, mais aussi d'autres types d'acteurs, des acteurs politiques, et notamment des acteurs politiques territoriaux, si je puis dire, engagés dans les collectivités qui, dans cette phase, vont avoir un rôle tout à fait central. Et l'une des thématiques majeures qu'on a traitées, bien sûr, c'est les jeux d'acteurs autour de ce développement du système dans la dernière période.
Ici le grand amphithéâtre de la faculté de droit à Rennes, où se déroule la rentrée solennelle de l'université. On pourrait dire sans doute que la rentrée solennelle prend chaque année une importance nouvelle. En effet, cette rentrée concerne maintenant des milliers d'étudiants de notre région, environ 18 000 cette année pour Rennes et Brest, et 37 000, dit-on, en 1972.
Alors, les jeux d'acteurs, c'est un sujet, on le sait, qui intéresse particulièrement Christian Lebart, qui a une question certainement sur ce sujet pour vous.
Je voulais revenir sur la question initiale.
Bon. Les mutations.
On a une série de contributions qui sont extrêmement passionnantes, avec parfois des focus sur une ville, sur une filière, etc. Et en même temps, la question que ne peut pas ne pas poser l'ouvrage, c'est une question un peu de monter en généralité, c'est-à-dire les expressions utilisées sont retard originel, rattrapage. Alors, quelle synthèse on pourrait proposer? Est-ce que la Bretagne a rattrapé son retard?
Alors, je dirais, il y a deux choses selon qu'on distingue l'enseignement supérieur, la formation, et la recherche.
C'est important peut-être qu'on s'arrête sur ces deux termes. Les associe souvent dans le langage courant sans toujours exactement savoir à quoi ça correspond. Aidez-nous à y voir plus clair, André l'Espagnol.
Notre sujet là, c'était les formations supérieures, tout ce qui relève du post-bac, même si on a centré l'analyse sur le système universitaire lui-même. Système qui se diversifie dans la période. La création des IUT dans les années 60 ajoute une pièce très importante à ce que sont les formations universitaires. Donc, il y a les formations universitaires et les formations post-bac en général. Ça touche à la question des prépas, la question des écoles, évidemment. Mais à côté de ça, il y a la question de la recherche. Alors, la recherche qui, pour une part, est liée à l'université, à travers même le statut des enseignants qui sont enseignants-chercheurs. Ceci étant, la question de la recherche est plus large que celle de l'université, car en France, les universités n'englobent pas la totalité de la recherche, fût-elle fondamentale, à travers la création, qui s'est amplifiée après 1945, d'organismes de recherche. Et nous verrons sur un thème particulier, qui est celui des sciences de la mer, comment précisément, l'irruption d'un organisme de recherche perturbe le paysage ou va le complexifier.
Concrètement, donc c'est le CNRS, c'est l'INSERM.
C'est l'INRA, qui sont les grands acteurs qui vont arriver aussi dans le paysage. Alors, pour répondre à la question de Christian Lebar, sur ce terrain, je crois qu'on part d'un retard initial. Si je puis dire, en dehors de la recherche agro, la recherche en Bretagne, si on se situe à la fin des années 60, est quand même peu développée, notamment parce que les choix du CNRS après la guerre, organisme créé à la veille même de la Seconde Guerre mondiale et développé après, ont privilégié une France qui est, outre Paris, l'île de France, une France qui se situe, au sud-est d'un axe Strasbourg-Toulouse. Et que le Grand Nord-Ouest, dont la Bretagne,
est un petit peu l'oublié.
A été l'oublié largement, même s'il commence à apparaître à partir de 1967. S'il y a une exception qui est Roscoff, où là, pour des raisons historiques précises, il y a eu une implantation très précoce. Donc, il y a eu un retard, effectivement, pour la recherche. Et la question pour la Bretagne a toujours été, est encore, de courir après ce retard pour tenter un rattrapage qui a été partiellement fait, mais qui, à mon avis, ne l'a pas été globalement, si l'on fait le bilan d'ensemble, et qui a toujours été une course contre le retard initial. Ça, c'est le point de vue recherche. Sur les formations supérieures, je dirais que la course, ça n'a pas été contre le retard, ça a été la course contre la pression des flux. Démographique et sociologique. La Bretagne connaît une révolution éducative après la Seconde Guerre mondiale, dans le scolaire, beaucoup plus rapide que dans d'autres régions de France. Et donc, elle va produire, en nombre croissant, tout le monde connaît ses performances, des flux de bacheliers portés par des familles qui souhaitent qu'ils valorisent ce bac en allant au-delà pour se former, y compris pour bouger. L'émigration dans les années 50-60 est encore forte, mais l'idée c'est qu'il faut partir avec des outils, avec la qualification. Et donc il y a cette pression majeure qui est démographique, mais de démographie scolaire qui amplifie le phénomène. Et la première étude, dans le bouquin, porte sur justement cette analyse des flux, avec les grandes poussées d'accès aux études que l'on a connues dans les années 60 d'une part, et on l'a connu tous les deux plus directement encore dans les années 85-95. La question est de savoir si on n'a pas une troisième poussée actuelle.
Alors voilà, vous introduisez des jalons et des repères historiques et une chronologie dans ces 70 ans d'histoire que vous nous proposez de découvrir.
Il y a des phases.
Il y a des points repères comme ça. Est-ce que l'on peut les dater? Alors 45, évidemment, c'est l'après-guerre, c'est le volontarisme.
C'est notre point de départ, oui, et puis il faut reconstruire.
De la reconstruction.
Ceci étant, juste un mot pour 45, pour bien situer le sujet. En 45, au total, notre périmètre, en 45, l'Académie de Rennes, c'est 7 départements, dont la Loire-Atlantique, qui s'appelle inférieure à l'époque, la Mayenne et le Maine-et-Loire. Nantes et Angers sont, la Laval, sont dans le périmètre. Et au total, c'est 4000 étudiants. 4000 étudiants en 1945. Et en termes de recherche, il n'y a que l'INRA qui va s'implanter à ce moment-là. C'est presque tout. Et quelques enseignants-chercheurs qui font un peu
de recherche. On part de loin, quand même.
On part de très loin. Donc, et quand nous disons que dans la Bretagne administrative, il y a actuellement 160 000 étudiants post-bac, ça vous donne un peu la mesure de la chose. Donc ça, c'est un point de départ. Alors, je dirais que la première poussée, elle est à partir de 56, quoi. 56-57. Là, il va y avoir des premières mutations pour l'enseignement supérieur, incontestablement. Alors, avec les années 60, en filigrane, il y a une première phase.
On parle même, je crois, de décentralisation universitaire. Oui. Vous utilisez ce terme à un moment.
Non, je ne l'invente pas, je le reprends. Le mot est utilisé, y compris à partir de 56, avec des initiatives d'en haut, porté d'ailleurs par un très grand directeur de l'enseignement supérieur qui a été Gaston Berger, on en a la trace dans les rues de Villejean, qui va lancer un premier mouvement. Il est prospectiviste, Berger. Il voit ce qui est en train de se passer en termes de poussée démocratique.
Ce sont les grandes années de la data aussi, de la planification stratégique.
C'est avant même la data. Et qui lance une première décentralisation universitaire qui va faire émerger de nouveaux pôles. Parce qu'en 1945, tout est concentré, tout à un poil près, si l'on accepte l'ACATO à Angers, tout est concentré sur Rennes. Et 1956-1962, il y a une première décentralisation portée nationalement par le ministère et Gaston Berger, et qui va faire émerger, d'une part, Nantes, qui va enfin retrouver son université créée au 1er janvier 1962, le pôle nantais. Alors, les Nantais en rêvaient depuis un siècle, mais ils avaient perdu l'université, ils vont la retrouver. Et puis, deuxième chose très importante pour nous, c'est que un pôle émerge à l'ouest de la Bretagne,
c'est
qui
Brest.
Est Brest. Brest, où jusqu'en 56, il n'y a rien. Il y a une prépa, peut-être. Il y a l'école navale, mais qui est une école professionnelle, même pas une école de statut universitaire à l'époque. Et donc, le pôle brestois va émerger. Les Brestois vont se saisir, les Finistériens, se saisir des perspectives offertes par Berger pour très vite constituer un pôle. Alors, il y a des initiatives, je dirais, académiques, de profs, des profs de lycée, d'ailleurs, Le Gallo en étant la figure emblématique, mais il n'est pas tout seul, bien sûr, relayé par des politiques, hein, et notamment le maire de Brest à partir de 59, Georges Lombard.
Qui voit bien tout l'intérêt politique et stratégique.
Sur le développement, il veut en faire une grande ville, le pôle de la Bretagne occidentale, et cela passe par la création d'un outil universitaire et un pôle de recherche en même temps.
C'est l'un des ingrédients de la rivalité que l'on se plaît parfois à mettre en scène entre Rennes et Brest, cette émergence universitaire à l'ouest de la Bretagne.
Les Brestois vont le vivre comme cela, évidemment, s'affirmer par rapport, effectivement, à un pôle rennais qui, jusque-là, monopolisait au sens strict les fonctions supérieures d'enseignement et de recherche. Et justement, avec, je dirais, l'atout qu'à cette époque, là où la révolution éducative est la plus intense, c'est le Finistère.
Christian Le Bartin.
Alors si on poursuit l'historique, la grande mutation, c'est les années post-68.
C'est la deuxième phase pour moi. Oui enfin...
Il y a un avant et un après 68
Alors je ne suis pas sûr que du point de vue des mouvements de fond, 68 soit la date clé. Parce que je pense que c'est les années 60, plus globalement. Hein. Cette décentralisation sur des grands pôles que lance Gaston Berger et qui en Bretagne se traduit quand même par l'autonomisation de Nantes et la création d'un pôle brestois qui va vouloir aller le plus loin possible pour devenir un vrai pôle universitaire et qui va y réussir en 10 ans. Mais il n'y a pas que cela. Ce qui est intéressant en Bretagne, c'est que face à la poussée des flux, d'emblée, un certain nombre d'acteurs vont souhaiter qu'on passe à une deuxième phase, c'est-à-dire un déploiement territorial plus fin pour la formation, allant jusqu'aux villes moyennes.
Et c'est ça, Saint-Brieuc,
dès 64-65, Lorient-Vannes, Quimper, les premiers pôles vont être d'ailleurs Quimper, Lannion, où s'est implanté le CNET, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu.
Dans les télécoms,
et donc,
bien sûr.
Dès ces années 65-75, je dirais, il y a une deuxième couche au-delà des grands pôles, Rennes, Nantes, Brest. Il y a une deuxième couche d'implantation du supérieur qui se met en place en Bretagne, à la fois alors dans les filières générales, mais non sans difficulté parce que l'État ne suit plus là. Et donc ça va être un peu du bricolage dans cette période, bricolage d'antennes un peu sauvages, à Quimper, à Vannes, porté par des élus, par exemple Raymond Marcellin qui crée une école de droit à Vannes. Mais deuxième composante, c'est janvier 66, une date très importante, un décret national crée les IUT. Et là, la Bretagne se saisit vraiment...
Plus que d'autres régions. Est-ce que la Bretagne est en pointe dans ce domaine-là ?
Elle va être tout à fait en pointe, puisque dès cette première phase, au-delà de la création d'un IUT, Rennes, c'est le premier forcément, à Brest, donc Rennes dès 66, Brest dès 68, premier département, c'est que d'emblée, et avec, je dirais non seulement l'aval, mais l'accord du recteur et de toute une série d'acteurs, on va aller vers un déploiement des IUT vers les villes moyennes. L'outil pour les villes moyennes va être mis en œuvre dès cette période 65-75. 25 départements d'IUT vont être créés en Bretagne au total dans cette période. Là, on est au deuxième rang après l'Île-de-France, c'est-à-dire qu'on est premier, parce que vu le poids démographique de l'Île-de-France, on est premier, et surtout répartis sur un nombre important de sites de villes secondaires. Lannion, qui était premier, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc-Saint-Malo sont candidats, mais vont pas réussir dans cette première phase. Parce que il y a aussi, dans cette poussée vers les délocalisations, comme on les appellera un peu plus tard, il va y avoir, je dirais, des gagnants et des semi-perdants, ou en tout cas des gens qui ratent un peu leur tour.
Élodie est elle aussi une ancienne étudiante de l'IUT de Quimper. Après avoir obtenu un DUT en génie biologique, elle a passé une licence pro en alternance chez Mère Alliance Armorique. Pendant un an, la jeune femme a occupé un poste de chef d'équipe et managé entre 4 et 12 personnes.
Et est-ce que les villes principales, ce qu'on a cité depuis le début de cet entretien, les villes universitaires que sont Rennes et Brest, accompagnent ce mouvement ou au contraire elles sont un peu frileuses de voir leur hégémonie peut-être
c'est
un petit peu...
C'est le moment où elles se recomposent aussi.
En tout cas, elles se recomposent, effectivement, Christian.
L'offre universitaire se recompose, oui, à Rennes à ce moment-là.
Absolument, parce que Rennes est aussi en pleine explosion. C'est-à-dire, si je puis dire, vu la croissance des flux, il y en a pour tout le monde. Et que Rennes vit constamment sous la pression, nous l'avons vécu directement, sous la pression des flux étudiants et des centaines
d'années
d'étudiants
en année de rentrée à en rentrée sont supérieurs.
Avec les médias filmant à chaque rentrée, les étudiants assis sur les marches des amphis. Et donc, que faire avec toute cette jeunesse qui aspire à suivre des études? Donc, il y en a pour tout le monde. Alors, ça implique en même temps, là, j'ai parlé de la dimension territoriale, un peu la dimension structurelle avec la création des IUT. Mouvement qui est aussi soutenu par d'autres acteurs qui sont des acteurs économiques, qu'il ne faudrait pas oublier.
Qui
sont-ils?
Dans
les commissions préparatoires, les CCI, des unions patronales. Il y a, dans le travail d'archives que j'ai fait pour ce travail, on voit que s'est créée une commission régionale des IUT qui doit réfléchir à la définition des profils de formation, des départements, secondaires, tertiaires, lesquels, et puis aux implantations. Et les milieux patronaux, les milieux économiques sont là, et ils poussent y compris à cette implantation territoriale. Donc c'est pas seulement les académiques dans leur coin ou les politiques que pour des raisons qu'on pourrait dire d'intérêt électoral par exemple, il y a des milieux économiques qui poussent à cela aussi et tout cela, je dirais, converge plus ou moins.
C'est encore une singularité bretonne, André l'Espagnol.
Je crois que c'est général,
ça se retrouve ailleurs.
Je dirais que la mayonnaise a pris très vite en Bretagne de ce point de vue-là. Non, on n'est pas dans la spécificité totale du tout. On trouverait d'autres régions, la Lorraine par exemple, où il y a des phénomènes un peu comparables, d'autres moins. Mais je dirais que les jeux d'acteurs vont prendre une configuration assez intensive, si je puis dire, en Bretagne, pour pousser à ces déploiements territoriaux. J'ajoute un élément, mais Christian Lebeur reviendra sûrement, c'est qu'il y a aussi des diversifications, y compris sur les sites majeurs comme Rennes, par exemple. Hein. C'est pas seulement le déploiement territorial, ce n'est qu'une des dimensions.
Ça. Avec la partition des deux universités, donc là, sur laquelle oui. il faut peut-être revenir. Parce que...
Et s'attarder un instant, sûrement, plus qu'un instant même.
Oui, alors c'est là on va retrouver l'événementiel, c'est-à-dire 1968, effectivement, puisque, bien voir que jusque à l'automne 68, toutes les structures universitaires, y compris celles qui se sont déployées à Brest, déjà à Quimper ou à Vannes, sont dans une seule université, l'université de Rennes, dont le président est le recteur, nommé par le ministre. Hein. On est dans un cadre...
Très centralisé quand même, oui.
Oui, mais avec un conseil où sont représentées les facultés, les collèges universitaires, certaines écoles, donc où il y a déjà des acteurs quand même représentatifs. Il y a les maires des grandes villes, il y a déjà le président de la CCI d'Ille-et-Vilaine est présent dans ce conseil, etc. Et donc... 68 va bouleverser tout ça au niveau national, on le sait, et ça aura des répercussions. Alors, ce modèle d'université napoléonienne, si je puis dire, explose. Enfin, napoléonienne, Troisième République, explose. Et on va construire autre chose. Donc, alors, des universités qui sont en principe autonomes, avec des instances élues, y compris élus par les étudiants s'ils veulent bien aller voter, les universitaires de tout statut, y compris le rambé, comme l'on dit, et pas seulement les mandarins, hein, et des personnalités. Donc il y a cette dimension d'autonomie. Il devait y avoir une dimension de pluridisciplinarité dans la loi Faure qui organise tout cela au lendemain de mai 68. Et puis il y avait la question, ces universités, cette université, dans quel espace, de quelle dimension? Et c'est là que le problème va se poser en Bretagne. Effectivement, l'université de Rennes qui regroupait les forces de toute l'académie, quel est son avenir? D'emblée, le recteur Lemoyle, qui est en poste après 68, il a géré 68 assez bien, du point de vue de l'État d'ailleurs, il pose la question, mais combien d'universités en Bretagne? Il répond d'emblée, 4 universités. 4 universités, grand titre de Ouest-France, début novembre 1968. Alors, ça veut dire d'emblée que le choix est fait, il y aura une université à Brest. Ce que réclament les Brestois depuis 10 ans va se faire, je dirais, de manière presque naturelle. Et donc, les forces qui existent, il y a déjà 2 facultés, un institut de droit qui vient de se créer, il y a une école d'ingénieurs, etc., un IUT en naissant, tout ça va se fédérer dans une université, alors qui va débattre de son nom et qui va s'appeler Bretagne Occidentale.
La fameuse UBO.
UBO, UBO. Donc ça, tout ça naît décembre 68, janvier 69. Reste la question de Rennes, Nantes étant désormais autonome depuis 8 ans, hein, 6 ans, de Rennes. Et là, les scénarios étaient ouverts. Le Moelle évoquait un scénario à 3 universités. Il y aura un débat pendant plusieurs mois sur le site rennais entre les acteurs, je dirais notamment les acteurs au sommet beaucoup quand même. Les acteurs au niveau du corps professoral surtout. Les étudiants vont peu être concernés par la
Et les élus locaux, les politiques s'intéressent à cette question.
Ce qui me frappe, ça reste pour moi encore un mystère. Alors les élus locaux, avec une personnalité majeure qui est le maire quand même, Henri Fréville, qui
en universitaire. Plus,
qui est revenu universitaire parce qu'il a été battu aux élections de 68, il est revenu professeur d'université à la faculté des lettres, il est prof d'histoire, Henri Fréville. Et en fait, ce qui me frappe moi, et dans les archives écrites que j'ai consultées, et dans les interviews de personnages, y compris de son fils, Yves Fréville.
Universitaire également.
Universitaire également, et quand même bien informé. Pas de réaction, on dirait que la ville a laissé faire. Et finalement, ce qui se fait, bah c'est un scénario assez improbable. Il va se faire une partition, non pas sur la base qu'avait envisagé Le Moelle, qui était une partition en 3, c'était ça son projet initial, sur la base de grandes familles de métiers, disons. Hein. Et en gros, il voyait un secteur santé, un secteur tertiaire autour de droit, sciences, éco, gestion, et un secteur autour des métiers de l'enseignement et de la recherche, unissant lettres et sciences. Ce scénario-là est contesté et remis en cause. D'autres scénarios sont évoqués, et il y a un certain nombre de gens qui disent ce qu'il faut surtout, c'est garder l'unité de l'Université de Rennes. Les forces, ce qui m'a frappé, c'est que les forces peut-être les plus progressistes en termes scientifiques du site rennais sont contre toute partition, en disant, si on veut défendre la pluridisciplinarité, il faut garder l'unité de l'universitas, des différentes disciplines. Des gens comme Gaston Richard, comme Lefebvre, comme Gagnepain, comme Olivier Saboureau, travaillaient, comme Sénécal, qui est en santé, qui a été premier directeur de l'école de la santé publique, disent, il faut de la pluridisciplinarité en gardant le cadre unique.
Et on sera plus fort ainsi.
Oui, or, tout ça va voler en éclats. Finalement, le choix qui est fait, dans des conditions qui restent encore un peu mystérieuses, le choix qui est fait, c'est une partition, si je puis dire, inégalitaire. D'un côté,
qui ne renvoie pas une logique de site dans l'inscription dans la ville, c'est ça qui est un
oui,
peu
alors, singulier. En plus, alors que la partition physique s'est déjà faite,
parce que le campus de Villejean, le campus de Beaulieu, ce sont ces années-là, c'est les années 69-72.
Les facultés de lettres et de médecine s'installent en 67 à Villejean. Et Beaulieu est déjà là depuis 65.
Donc on aurait pu imaginer une partition...
Une partition géographique.
Géographique.
Et non, puisque la partition va se faire en regroupant les 3 facultés sciences, santé, c'est médecine, pharmacie, et droit, sciences, éco, qui sont en train de se partitionner par ailleurs en UER, vont former un seul bloc et reste à côté la faculté des lettres, sciences humaines. Alors, explicitement, il n'y a pas grand élément d'explication. Je dirais que les facteurs idéologiques et politiques ont été premiers. C'est-à-dire, en gros, la fac des lettres avait été un peu le bastion de la contestation et une bonne partie des mandarins qui contrôlent les autres facultés souhaitent ne pas être avec. Les sociologues, les psychologues, tous ces agités qui ont animé la ville en 68. Et donc, le recteur, non, le doyen de la faculté des lettres, René Marache, à un moment dit clairement, on nous a mis au coin. Alors, la faculté des lettres est mise au coin. Ceci étant, un certain nombre de gens en lettres étaient bien contents d'être autonomes et de pouvoir vivre leur vie sans avoir le contrôle des mandarins de droit, de médecine ou de sciences.
Alors, on va marquer une petite pause musicale dans cet échange passionnant sur l'histoire de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne avec vous, André L'Espagnol. Nous allons écouter un morceau des Beastie Boys, The Sounds of Science, et on reparlera juste après, eh bien, justement, de ces rapprochements difficiles, compliqués entre les universités rennaises, Rennes 1 et Rennes 2. C'était dans l'actualité il n'y a pas si longtemps.
Like bumping around the town like when you're driving a Range Rover.
Expanding
the horizon. Expanding the horizon.
Nova with the key. Now rock, shocking the mic of the many times, times the times table.
Well, to tell the spell all of the old fables.
Cause I've been dropping the new science.
And I've been kicking the new knowledge.
And I see to a degree that you can't get in college.
Now the trade
of the
earth
and the eggs that I eat, I got
pegs through my
head.
Airborne through my
feet.
EMD square.
Kick out of the palladium. Just think that I can't. It's the sound of science. The sound of science. Science.
And dish you.
Waxing and milking all of your squares.
Time and money for girls covered with honey. Kaleid aspire to be as cunning. Feeling a rock and a roll of B-size D cup. Order the quarter deluxe. Why don't you wake up? My mind is kind of blowing like an oil projector. How do you get up to get the Jimmy Protector? When you surf and work and exploding. She woke up in the morning and her face was coated. Buddy, you study the man on her mind.
Do what you like.
Well, drums go in my celebration. The beat that's beginning. Well, I'll figure it out. Who makes the jacket? Something with the badges and the blue jackets. Like what I'm saying, cause I keep trapping it. I smell weak, cause your beat's packing. People always ask me, what's the phenomenon?
Yo, what's up?
Yo, what's going on?
No one really knows what I'm talking about. Yeah, that's right. My name's Yao.
Constantly on the founding youth, not Robotron. This is a word I've heard before. So
move
and move up on the dance floor.
Cause I'm gonna die one day. Cause I'm going and going and going this way.
Not like a road tour, it's a joke.
I'm going out first class and going out coach.
Rock my Adidas, never rock Fila.
I do not sniff the coke, I only smoke the Sensi Mila.
Well, who am I know? I know
where to go.
Let's go.
What I'm here on
my. And that's kick me broke. I got science for any occasion.
Postulated theorists formulating equations.
Well, teach wizard.
Like Galileo dropped the orange.
The Beastie Boys, The Sounds of Science à l'instant dans Chercheurs en Ville, émission consacrée ce mois-ci aux mutations de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne depuis 1945. Dans la première partie de l'émission, notre invité André L'Espagnol revenait sur les origines des universités rennaises derrière lesquelles on retrouve un certain nombre d'acteurs qui ont tenté de rattraper le retard accusé dans la recherche par le Grand Ouest au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ces mutations, ce sont aussi celles d'un territoire dans sa démographie avec des flux de population jeunes qui quittent la campagne pour les grandes villes comme Rennes et Brest qui construisent de grands campus sur leur territoire. Mais d'autres villes plus petites comme Lorient, Quimper ou Lannion voient aussi naître en leur sein des IUT, ce qui contribue aujourd'hui à donner une autre dimension à la région. Dans cette deuxième partie à présent, on va revenir sur le revers de cette médaille, l'incapacité pour certaines universités à se fédérer et ce malgré une tendance au rayonnement comme l'illustre le rapprochement de la Bretagne et des Pays de la Loire en matière d'enseignement supérieur. Chercheurs en ville, deuxième partie avec André L'Espagnol, historien et ancien président de Rennes 2, c'est tout de suite sur Canal B. Il répond aux questions de Xavier de Bontride et Christian Lebar.
Alors André L'Espagnol, juste avant notre pause musicale, vous évoquiez les reconfigurations de l'après 68 qui ont beaucoup marqué le paysage universitaire breton et singulièrement rennais. On a tous en tête ce qui s'est passé il y a pas si longtemps de cet échec de la fusion entre Rennes 1 et Rennes 2, le mariage impossible. Mais comment on peut comprendre ça?
Justement, en remontant aux racines historiques, on comprend que il y a eu un événement qui a été la partition. Il y a eu aussi l'autonomisation de Brest qui entendait bien vivre sa vie de manière indépendante. Donc tout cela évidemment pèse sur la suite des événements, ce qui fait que lorsque dans les années 2000, vous avez même commencé au début des années 90, mais dans les années 2000, au niveau national, et sous l'impact d'ailleurs de facteurs qui sont même internationaux. Le classement de Shanghai apparaît dans les années 2004.
Le fameux classement des universités mondiales.
Le palmarès des universités d'après un certain nombre de critères.
Est-ce qu'on est dedans ou pas ?
C'est
voilà.
Ça. Bon, va poser la question est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans l'émiettement à travers les partitions, les déploiements territoriaux ? Est-ce qu'il ne faut pas recomposer tout ça ? Et donc, c'est un mouvement de longue durée qui s'amorce. Il a commencé dans les années 90. On se pose la question, comment recoudre les morceaux ? Et donc il y aura toute une série de tentatives, celle du pôle universitaire européen Rennais qui est pensée à partir de 98 et qui émerge en 2001, mais qui est une structure très lâche quand même, regroupant les universités et les écoles. Il va y avoir l'initiative portée par un ministre breton, François Goulard, des presses, pôles régionaux d'enseignement supérieur et de recherche, qui va aboutir alors dans un autre périmètre à la création d'un presse régional associant les quatre universités bretonnes et des écoles. Et puis, plus tard encore, il va y avoir cette tentative de retour à la structuration du pôle Rennais autour de la fusion Rennes-Rennes 2. Et c'est là qu'on voit que c'est pas si facile de recoudre ce qui a été défait, parce que des histoires se sont construites, parce que des cultures se sont développés et perdurent, et que ça implique sans doute, c'est pas un simple travail technique qui est à faire là, mais un travail politique et presque culturel pour que les acteurs à nouveau trouvent intérêt à travailler ensemble pour porter des projets en commun avec une plus-value. C'est peut-être ce qui n'a pas été assez démontré dans ce qui a été tenté dans la dernière période, ce qui ne veut pas dire que l'histoire soit terminée, certainement pas, c'est pas un historien qui le dira.
Vous insistez, André L'Espagnol, à l'instant sur cette dimension presque culturelle. Donc les établissements ont cette culture, il y a des spécificités.
Il y a des cultures d'entreprise dans les entreprises, voilà. Il y a des cultures d'établissement dans les universités, des manières de fonctionner, et puis je dirais des réactions les uns par rapport aux autres.
Des jeux d'acteurs aussi.
En gros, à Rennes 2, la méfiance par rapport à ce que pourrait être une OPA de l'autre grande université, ça existe. Et donc c'est ça qu'il faut surmonter à travers tout un travail minutieux, un travail de conviction et de pédagogie.
Christian.
Oui, parce que les fusions se sont faites ailleurs qu'à Rennes, dans des conditions qui n'ont jamais été simples, mais qui ont quand même souvent abouti. Donc il y a quand même une singularité rennaise dans cette échelle qui est peut-être liée à la dissymétrie entre les deux.
Il y a deux grandes réussites de fusion actuellement, c'est Strasbourg et Aix-Marseille. Aix-Marseille qui a surpris tout le monde.
Et il y a Bordeaux qui est le contre-exemple.
Lettres qui reste
qui bon, est un contre-exemple, hein, plutôt un contre-exemple Bordeaux.
Contre-exemple plutôt. Donc c'est pas simple même ailleurs, hein. Mais c'est vrai que ça progresse et que la question reste d'actualité, mais on terminera peut-être là-dessus.
On y reviendra.
Est-ce que une des lignes d'évolution, c'est pas aussi lié au fait qu'on est plutôt dans un contexte de pénurie, alors que si on revient par exemple sur la période du plan Université 2000, on était plutôt dans un jeu à somme positive où il y avait plus à distribuer.
Il faut peut-être s'attarder un instant sur ce fameux plan Université 2000.
Parce que entre ce qui s'est passé dans les années 60-70, que j'évoquais la première phase du déploiement, et maintenant, il y a eu aussi cette période qu'on appelle la période Université 2000. Rappelons que c'est sous le deuxième septennat Mitterrand, Jospin, ministre de l'Éducation nationale, Allègre, conseiller spécial, face au deuxième grand flux de poussée étudiante particulièrement vif en Bretagne. Ça se traduit d'ailleurs par la crise de Vaquet, les grandes manifestations étudiantes
86.
De 86. Eh bien, tous les acteurs vont être conscients qu'il faut une réponse, et une réponse en développant l'offre de formation, y compris une offre de proximité. Et en quelque sorte, on va réhabiliter l'idée des délocalisations qui étaient jusque-là un peu sauvages et qu'on va tenter d'organiser à travers une grande négociation entre l'État, le ministère de l'Éducation nationale, c'est le recteur ici qui pilote, hein, le recteur Mel qui a joué un rôle très important, et la région, en l'occurrence Gérard Pouchet pour la région, qui a joué un rôle tout à fait clé sous l'autorité d'Yvan Bourges, pour trouver un accord collectif avec les collectivités des différents niveaux pour cofinancer ce développement sans précédent de l'offre de formation supérieure, offre de formation à la fois de formation générale et de formation technologique, avec des possibilités dans certains cas d'ailleurs d'aller plus loin que le premier cycle, d'aller jusqu'à l'émergence, ce sera le cas en Bretagne Sud, d'une nouvelle université, puisqu'une quatrième université va apparaître dans cette période.
Donc là c'est le grand moment du rattrapage en fait.
Alors là, d'offre de formation supérieure, c'est le grand rattrapage, mais avec engagement et de l'État, et c'était nouveau vraiment, engagement fort des collectivités territoriales, et en Bretagne, je dirais que c'est là peut-être que l'engagement en termes d'investissement a été le plus fort, avec un consensus régional largement créé.
Et pas en termes de recherche, parce que c'est aussi le moment où les grands organismes...
Oui, alors en recherche, U2000, en principe, n'incluait pas la recherche. Mais parallèlement, il y a eu une politique de décentralisation. On est dans la période Cresson, hein, si vous vous souvenez, d'une politique volontariste pour décentraliser la recherche et avec incitation forte aux organismes. Et il y a eu un certain nombre, effectivement, ouais, d'efforts dans ce sens. C'est l'époque vraiment où, par exemple, des organismes comme l'INSERM vont s'implanter vraiment. Il y avait une première unité, mais s'implante en Bretagne, y compris sur des thèmes comme l'imagerie, par exemple. Hein. C'est l'époque aussi où l'INRIA, qui était déjà implantée depuis les années 70, va conforter son implantation sur la thématique de l'informatique, on dirait aujourd'hui le numérique. Le secteur agro conforte tout cela, l'IFREMER, etc. Et le CNRS dans certains domaines, par exemple la chimie et par exemple les sciences de la mer du côté de la Bretagne.
Christian Lebart.
Je crois que c'est important de revenir sur le plan Université 2000, parce que le contraste est très fort avec la période contemporaine. On a un petit peu l'impression qu'on est passé à une phase de pénurie et qu'on peut quand même s'interroger sur les infortunes, et par exemple des délocalisations universitaires, voire des petites universités comme l'UBS, qui, oui, du coup, maintenant, dans un contexte hyper concurrentiel, ont un petit peu du mal à tirer leur épingle du jeu. Et même, on voit les grands organismes n'ont pas quitter la Bretagne, mais négocier quand même un peu chèrement leur présence.
Là, on était en gros dans une période positive. Effectivement, c'est l'époque autour de 88-93 où l'enjeu universitaire au sens large, recherche comprise, est intégré par l'ensemble des élites de la société. Alors, c'est largement vrai en France, mais c'est particulièrement vrai en Bretagne. Dans un consensus presque total, pour dire, il y a quelques débats, certes, mais dire oui, il faut miser sur la matière grise, tout simplement. Et miser sur, ça veut dire y compris miser financièrement, avec partage d'ailleurs de l'investissement et partiellement du fonctionnement entre l'État central et les collectivités publiques territoriales qui s'engagent à fond, chacune pensant y trouver son intérêt, d'ailleurs, bien évidemment, dans les jeux d'images de ville, dans on retient la jeunesse chez nous, ça va animer, etc. Il y a tout un argumentaire autour de ça. Et donc, il y a en quelque sorte un cercle vertueux qui pousse à cela et qui contribue effectivement à un développement du système d'offres de formation supérieure et même un peu du système de recherche dans certains domaines.
Donc, trois mots pour définir Rennes: paisible, étudiante et vie universitaire, tout simplement. L'avantage aussi du réseau interuniversitaire, c'est qu'on peut utiliser les bibliothèques à peu près de n'importe quelle université en venant d'un des établissements.
Est-ce que ce volontarisme-là que vous exprimez dans cette période de fin des années 90, début des années 2000, décennie 90, oui, eh bien, est-ce que ça se traduit sur un plan économique avec des choix stratégiques majeurs affirmés en direction de telle ou telle filière, par exemple?
Au niveau formation générale, pas trop, mais par contre, au niveau recherche et même formation technologique, oui. Et c'est là qu'on retrouve les priorités que les responsables bretons se définissent, avec trois axes quand même importants, dont un qui était déjà anciennement développé, mais qui va encore se renforcer, qui est l'axe agroalimentaire, en gros, hein, avec implantation, par exemple, d'organismes comme l'AFSA, en plus de l'INRA, qui continue son développement sur le pôle rennais. Hein. Donc, il y a tout ce secteur-là.
Sur l'Agence française pour la sécurité alimentaire,
oui, devenue l'ANSES aujourd'hui, qui est implantée et à Fougères pour le médicament vétérinaire, et à Ploufragan-Saint-Brieuc, avec des laboratoires de niveau européen, hein, tout à fait pointu, et un peu à Rennes également. Donc, il y a ces acteurs-là, le CEMAGREF qui est implanté à Rennes également. Donc, il y a tout un ensemble. Deuxième axe, alors, très important, c'est, là, ça remonte aux années 60, déjà, ce qu'on avait appelé à l'époque la vocation électronique de la Bretagne, c'est-à-dire dire que pour trouver une réponse, je dirais, à l'industrialisation de la Bretagne, la Ve République avait misé là-dessus, d'ailleurs, c'était le développement électronique télécom. Alors, ça avait des liens, y compris avec le militaire, par exemple à Brest, l'implantation de CSF qui est maintenant Thalès, mais c'est l'implantation du CNET à Lannion, et puis à Rennes, à partir de 68-72, c'est l'implantation d'autres organismes, le CCETT, et autour de ça, des écoles et des labos. Des labos et des organismes de recherche. Le CNET était lui-même un organisme de recherche national dépendant des PTT. Et puis l'implantation de l'INRIA, qui va créer l'IRISA avec l'Université de Rennes et l'INSA ici, évidemment pièce centrale de ce développement de la recherche. Donc là, on est vraiment dans le rattrapage sur un axe qui est l'axe électronique, informatique, dont la Bretagne va devenir un des secteurs forts, et jusqu'au numérique, voire au cybernumérique aujourd'hui. Il y a une continuité là-dessus sur 50 ans. Et puis, troisième axe, c'est les sciences de la mer. où d'emblée, effectivement, il y a eu des velléités. Alors, dès les années 60, d'ailleurs, y compris portée par le recteur Lemoyle dans le cadre de l'ancienne université de Rennes. Mais finalement, c'est une initiative d'État qui va être essentielle. La création, l'implantation, la création d'une part du CNEXO, avec son implantation principale à Brest, à la Pointe du Diable. Tout cela devenant, par fusion avec les STPM, l'IFREMER, au début des années 80. Donc là, troisième vocation, si je puis dire, majeure de la Bretagne en termes de recherche. Donc là, il y a eu un vrai rattrapage sur un certain nombre de thématiques.
Et on retrouve bien hein, ces thématiques dans les chapitres de l'ouvrage que vous avez coordonné. J'en rappelle le titre pour nos auditeurs, Les mutations de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne 45-2015. Et à travers tous ces acteurs que vous êtes allés rencontrer, on voit bien effectivement les mobilisations, les priorités également stratégiques qui sont décrites. Vous avez évoqué certaines d'entre elles. Où en est-on aujourd'hui? Si l'on fait un petit arrêt sur image, on arrive, vous allez jusqu'à 2015, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui pratiquement dans votre analyse.
C'est l'histoire du temps présent.
C'est l'histoire du temps présent. Est-ce que cette histoire du temps présent nous permet d'anticiper un peu les évolutions à venir, si l'on se projette, si l'on fait de la prospective?
Alors, sur le temps présent, rien n'est plus difficile que, je dirais, d'analyser le moment où l'on est et les perspectives immédiates. Première chose, sur le terrain de la formation. Je crois que, là encore, l'analyse des flux est importante. Je crois qu'on est à nouveau dans une phase d'expansion des flux étudiants, y compris l'impact du bac professionnel sur les accès au post-bac, avec des réponses dont il faut se poser la question. Elles sont-elles bien adaptées? Enfin, je sais que là, il y a des interrogations. En tout cas, les flux, à nouveau, augmentent. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait des problèmes d'accueil comme dans les années 60 ou les années 90, mais en termes physiques. Je crois que la Bretagne, de ce point de vue-là, a largement construit pour qu'on puisse accueillir dans des conditions correctes. Ceci étant, qualitativement, il faut voir. Est-ce qu'on a la gamme de formation suffisante, même si tout notre appareil, par exemple, d'IUT, mais aussi de BTS dans les lycées, apporter des réponses. Donc, sur ce type de formation-là, je crois. La Bretagne aussi s'est positionnée depuis les années 90 sur les formations d'école. Et d'école d'ingénieurs, et maintenant d'école de commerce aussi, hors éducation nationale, de manière importante. Donc, il y a beaucoup de réponses. Ceci étant, sur d'autres domaines, il y a encore des choses à voir, y compris tout le monde sait, parmi les acteurs universitaires, que en termes de pourcentage, par exemple, d'accès au troisième cycle,
On n'est pas très bon.
Je dirais que l'avance qu'on a au niveau du bac, elle diminue, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, y compris parce que notre attractivité internationale, qui est très importante pour le troisième cycle, n'est pas suffisante. Alors ça renvoie aussi alors au potentiel recherche. Et alors, donc la question de l'excellence recherche. Alors, il y a un certain nombre de spécialisations, mais il y a d'autres domaines. Il faudrait voir où on en est. Alors, c'est vrai que la Bretagne a des points forts. Elle a aussi des zones, sans doute, qui le sont moins. Et les stratégies des organismes se sont, elles aussi, adaptées plutôt à une compétition internationale où la Bretagne n'est pas forcément une priorité. Je crois que Christian Lebar l'évoquait tout à l'heure. Certains des organismes sont plutôt en train de replier leurs actions vers d'autres terrains que le terrain de l'Ouest. Donc, c'est pas sûr.
Christian.
Alors cet historique est vraiment à la fois très, très utile et très passionnant, et en même temps il pose une question assez fondamentale qui est centrale dans l'ouvrage, hein, qui en est un des fils directeurs, qui est la question des variables un peu explicatives de toutes ces évolutions. L'ouvrage s'ouvre sur une réflexion sur la démographie étudiante, ce qui est un point que vous avez rappelé. Je crois que c'est très important de dire au fond quand même la recherche est quand même impactée par les flux étudiants, parce que c'est eux qui rendent possible la création d'établissements, le statut d'enseignant-chercheur est ainsi fait que c'est d'abord des heures de cours et ensuite accessoirement de la recherche. Mais il y a une autre variable qui est absolument centrale, vous parliez d'historique par le haut, c'est la variable politique, c'est-à-dire,
tout à fait,
y compris avant la décentralisation. On a vraiment l'impression, quand on lit cet ouvrage, que la décentralisation ne change finalement pas tant que ça les choses.
Elle amplifie le corps en
Bretagne. Les grands élus ont très précocement eu conscience qu'il y avait des enjeux très lourds autour de la carte de l'ESR.
Lombard, Marcelin, Fréville, dès les années 55-65.
Comme des maires actuels. Ouais. Et à l'inverse, voilà. Et, et donc, on sait aussi qu'une des singularités de notre région, c'est pas mal de cumul aussi de casquettes, puisque beaucoup d'élus...
De passage de l'académique au politique.
Tout à fait, ce qui est quand même...
Il y a un vivier dans l'université.
Ce qui est une donnée quand même importante, enfin, il n'y a qu'à regarder le profil successif des grands-mères de Rennes dont on parle dans l'ouvrage. Alors, voilà, ma question c'est ça, est-ce que la curiosité, la demande des élus, et en particulier des maires, pense moins à la région qu'aux maires, à l'égard de l'enseignement supérieur et de la recherche, est-ce que ça a évolué?
Est-ce que c'est toujours aussi présent?
C'est toujours aussi présent. Qu'est-ce qu'ils attendent au fond de l'institution universitaire?
Je crois effectivement qu'on a un peu changé d'époque, mais ils demeurent quand même sensibles à la problématique que le statut d'une ville est quand même lié à sa capacité à attirer la matière grise.
C'est Shanghai, ça.
C'est Shanghai, mais c'était aussi la stratégie de Lisbonne. En 2000, moi je l'ai vécu à la région, en 2000 on dit l'Europe doit être région de pointe sur le triptyque supérieur, recherche, innovation. Et donc ça a pénétré quand même les mentalités des élus. Donc mais on n'est plus sur cette problématique-là de l'excellence et de l'innovation que la problématique qui était accueil, formation, oui, démocratisation. Ça a un peu bougé. D'où l'enjeu, justement, des regroupements. On renvoie à notre autre interrogation sur la recomposition, pourquoi faire? La recomposition pour apparaître sur la carte nationale, européenne, internationale, d'où les grands ensembles qu'on essaie de constituer. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est notre question.
Ça vaut pour les maires des grandes villes, des grands sites universitaires. Oui. Mais est-ce qu'il y aurait, par exemple, toujours aujourd'hui, cette demande d'enseignement supérieur et de recherche de la part des maires de villes moyennes? Comme il y a pu y avoir pour Saint-Brieuc.
Je ne suis pas sûr. Que ça mériterait de reprendre l'enquête, là, effectivement. Je dirais que là, c'est peut-être une phase passée. Je dirais qu'avec des variations, certainement, entre les différentes villes moyennes, je pense que la pression est moins forte à ce niveau-là. Par contre, c'est au niveau des grandes villes, je pense que pour les grands élus de Rennes, de Brest ou de Nantes, évidemment, la question de l'enjeu universitaire au sens large, j'inclus recherche là-dedans bien évidemment tout autant, est toujours aussi fort, d'où l'intérêt de ces grands élus d'ailleurs pour le résultat de ce qu'ont été les démarches de regroupement sur la problématique des investissements d'avenir qui maintenant conditionnent ces tentatives de regroupement.
Et aujourd'hui c'est naturel que nous soyons ensemble sur ce stand puisque la communauté d'université et établissement Université Bretagne Noire, c'est plus simplement une idée. C'est un acte et je suis convaincu d'au-delà du fait que nous allons être la plus grande commu de France de par le nombre de personnel, de par le nombre d'étudiants, de par le nombre d'établissements, au-delà de cette volumétrie. Je crois que l'ambition collective est telle que demain l'Université Bretagne Noire va vraiment compter à l'échelle du territoire français mais aussi bien au-delà de nos frontières.
Alors justement, les investissements d'avenir, on en a beaucoup parlé ces dernières années, c'était présenté comme un objectif essentiel, stratégique, incontournable, et puis finalement, force est de constater qu'à l'arrivée des courses, eh bien, les attentes ont été quand même, ici en Bretagne, en partie déçues. Qu'est-ce qui l'explique et est-ce que les prochains tours seront plus favorables? Rien ne l'assure pour l'instant.
Et on voit bien là que cette réponse aux investissements d'avenir renvoie à la question de l'organisation du système. Parce que, dans un premier temps, les acteurs et universitaires et politiques ont dit, pour répondre, pour être dans les investissements d'avenir comme initiative d'excellence, il faut qu'on regroupe nos forces sur la base la plus large et sur un certain nombre de thématiques pour être compétitifs. Et puis, à deux reprises, cela a été fait, en s'appuyant d'abord sur le PRESS, créé en 2007 à l'échelle de la Bretagne et en alliance avec Nantes. Puis ensuite, ça a été fait dans le cadre du nouveau périmètre créé après la loi de 2013 de ce qu'on appelle la COMU, la communauté d'établissement. Et là encore, deuxième tentative, deuxième échec, parce que on oppose au niveau du jury international qui examine ces dossiers la question de la gouvernance et de la cohérence du système. Et on dit, non, en fait, c'est un grand machin mou que vous nous proposez. C'est illisible et on est très incertain sur la gouvernance. Et donc, résultat des courses, on revient un peu au point de départ. Et la tentative actuellement en cours, c'est une tentative sur ce qu'on appelle les ICIT, ISITE, S-I-T-E, hein. C'est-à-dire là, on revient sur des propositions qui sont sur la base de sites métropolitains. Il y a une proposition à Nantes, Il y en a eu une à Brest, il y en a eu une à Rennes.
On relance la rivalité des territoires,
oui,
là, pour le coup.
Oui, et en même temps, ça repose la question de recomposition sur un site métropolitain, puisque dans le projet rennais, alors je n'ai pas tous les éléments, hein, c'est en cours, je crois que c'est en février que le jury doit trancher, on a demandé aux acteurs qui proposent effectivement ce projet d'e-site sur Rennes, des preuves en quelque sorte, non pas d'amour, mais en tout cas de volonté d'aller plus loin dans le regroupement, peut-être vers un grand établissement regroupant les universités et les écoles, au moins de l'éducation nationale, pour un nouvel ensemble, d'une certaine manière, ayant une certaine cohérence. Donc on revient sur un périmètre métropolitain, après avoir tenté le périmètre régional et le périmètre interrégional. Alors, de ce point de vue-là, on voit bien que la question, quand même, qui d'ailleurs s'est évoquée dans les dernières contributions du livre, la question du périmètre pertinent et des complications objectives qui se posent dans l'Ouest là-dessus est une réalité incontournable. Je dirais que le fait que l'Ouest soit une grande zone sans métropole dominante, hyper dominante, mettons à la différence de Midi-Pyrénées, pose un problème objectif qu'on tente de solutionner à travers diverses réponses.
Christian Lebarthe, cette dimension territoriale, oui, là, vous intéresse forcément.
On sent une grande fébrilité quand même dans le rapport aux échelles quand il s'agit de penser la politique d'enseignement supérieur et de recherche. Certaines des contributions du livre portent à juste titre sur des sites. D'autres portent à juste titre sur ce qu'on pourrait appeler le système régional. Bon, les chercheurs, on le sait bien, ont toujours du mal à savoir à quelle échelle il faut penser le social, parce que forcément tout fait système et les frontières sont toujours artificielles. Mais ce qui est moins drôle, c'est que côté acteur public, on retrouve cette fébrilité qui est peut-être aussi liée au fait qu'il n'y a pas un acteur public qui est en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est à la fois la région, c'est à la fois les villes, c'est encore l'État et c'est l'Union européenne. Et du coup, on a quand même un petit peu l'impression, enfin les collègues parlent de millefeuilles, on a oui, quand même un peu l'impression d'un empilement entre la ville, alors l'établissement dans le Carénais, hein, on en est toujours à l'établissement, le site au sens de l'agglomération, métropolitain. Bon, je laisse tomber le département qui a un peu renoncé, la région, et dans le cas de la commu maintenant, de la communauté d'établissement de région, tout cela est-il raisonnable?
Je crois que là, on touche des contradictions et des difficultés qui sont en partie spécifiques quand même au cas Bretagne-Ouest. Hein. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu une métropole dominante sur l'Ouest, qui est un produit de la géographie et de l'histoire, dans la longue durée, c'est pas sur 50 ans là, c'est quelque chose qui plombe un peu les réponses au stade actuel.
Est-ce que ça veut dire que les acquis d'Université 2000 se retournent un peu contre nous?
C'est une question posée. Alors, elle a été posée dès l'époque. D'ailleurs, un certain nombre d'acteurs universitaires disaient que, effectivement, le risque de l'émiettement pour satisfaire des besoins de formation, je dirais, territorialisés, pouvait freiner le développement des pôles principaux, que ce soit le pôle rennais ou le pôle brestois, disaient aussi d'autres acteurs, dont le président de l'UBO de l'époque. Donc, on retrouve cette question-là. Je pense simplement que ce qui a changé aussi, c'est le climat d'hyper mise en concurrence. On a changé de paradigme dans l'action des pouvoirs publics. On était encore jusqu'aux années 95-98 dans une logique d'une certaine manière d'aménagement du territoire et donc de rééquilibrage, y compris sur la recherche. Et que depuis 2005-2006, depuis la loi Goulard et depuis tous les appels à projets qui se sont succédés, on est dans une logique de mise en concurrence généralisée. Et que de ce point de vue-là, ça pose d'autres problèmes et ça fragilise peut-être ce qui avait été tenté en Bretagne et dans l'Ouest, parce que ça va au-delà de la Bretagne administrative actuelle. Cela nous met peut-être plus en difficulté. Donc, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais nous avons des atouts, si je puis dire. Et l'histoire n'est évidemment pas terminée. On va attendre les résultats du dernier appel à projet ici, bien sûr, pour voir ce qu'il en est.
Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission avec vous. C'est encore la période des vœux, pour quelques jours encore, André L'Espagnol. S'il y en avait un que vous souhaitiez formuler à l'égard, justement, de cette université, de cette recherche bretonne que vous connaissez si bien, quel serait-il, ce vœu?
Ah oui, je souhaite quand même qu'on marque, que le projet qui a été soumis pour l'ICIT débouche sur un résultat positif cette fois, y compris pour conforter les efforts qui ont été faits dans ce travail-là, et que ça débouche véritablement sur une logique de projet portée par des acteurs qui s'entendent dans un périmètre plus large que le seul établissement. Je crois qu'il faut qu'on dépasse effectivement ces fractionnements qui ont été le résultat d'une histoire, qui ont eu leur aspect positif. Je crois que ça a contribué sur certains terrains à développer les choses, mais je pense qu'il y a une étape à franchir.
On a la fusion.
Une difficulté particulière. La fusion, une forme de regroupement, mais de vrai regroupement, qui doit avoir lieu. Alors, commençons par la question du site Rennais. Au-delà de la seule question des deux universités, je pense par exemple une question comme celle des sciences humaines et sociales, c'est pas que les deux universités, c'est aussi une question comme l'IEP par exemple, d'autres écoles comme Agro qui a également des activités dans ce domaine. Je pense que c'est plus que cela. Donc regroupons les forces pour effectivement valoriser tout ce qui a été fait depuis 70 ans dans le territoire breton.
Eh bien, merci beaucoup André L'Espagnol. Dans cette émission Chercheurs en ville, nous serons attentifs tout au long de l'année à ces mutations, à ces évolutions. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif que vous avez publié aux presses universitaires de Rennes avec Mathieu Leprince.
Co-dirigé avec Mathieu Leprince. Ce matin, mais il a été co-maître d'œuvre.
C'est important de le souligner. Les mutations de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne 1945-2015, déploiement territorial, diversification et essai de structuration. Eh bien, c'est de tout cela dont nous avons parlé ce matin avec vous, André L'Espagnol. Merci beaucoup et très bonne suite de programme.
Merci
sur Canal B.